VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Brazzaville. L'opposition congolaise tente de rallier la communauté internationale à sa cause. Une délégation est actuellement en visite à Washington. Maître Norbert Tricot, l'avocat du général Jean-Marie Mokoko, toujours assigné à résidence, plaide pour une assistance humanitaire au Congo-Brazzaville.
Nous avons effectivement prévu d'engager des recours, mais pour nous, l'urgence, ce n'est pas l'encerclement du général, son atteinte à son droit d'expression alors que la Constitution le prévoit. Mais c'est surtout la situation du peuple congolais et ses massacres. C'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso fait comme M. Bachar al-Assad, le dictateur syrien. Il tue son propre peuple. Et donc ce que souhaite le général Mokoko, et c'est aussi pour ça que nous sommes venus à Washington, c'est que nous mobilisions la communauté internationale pour que soit mis en place très rapidement un corridor humanitaire principalement dans le département du Poule, mais également aussi dans le reste du sud du pays, puisqu'il y a également des exactions à Pointe-Noire et dans la région de Pointe-Noire. Donc, nous souhaitons que, sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit organisé ce corridor humanitaire qui serait géré par le Comité international de la Croix-Rouge.
Maître Norbert Tricot, l'avocat du général Jean-Marie Mokoko. Au Niger, les organisations de la société civile vont manifester à Niamey le 24 avril prochain à l'appel du collectif Résistance citoyenne. Elles entendent dénoncer ce qu'elles considèrent comme une mascarade électorale et qui a vu la reconduction à la tête de l'État nigérien du président sortant Issoufou Mahamadou pour 5 ans. Abdoulaye Oumarou est l'un des responsables de ce collectif.
Il a été constaté que tout au long du processus électoral, la loi a été violée, torturée ou carrément mise de côté lorsqu'elle n'a pas été superbement ignorée au mépris des règles élémentaires de droit. La démocratie nigérienne est avant tout notre bébé. Nous ne pouvons accepter, après tant de sacrifices consentis pour l'avoir vu naître et tant de luttes menées, parfois au péril de notre liberté et de notre vie, qu'elle soit mise sous coupe réglée et qu'elle devienne la chose de quelques individus prêts à tout pour conserver le pouvoir et abusant de la démission et de l'irresponsabilité notoire de l'opposition politique, pourtant institution constitutionnelle de contre-pouvoir pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. C'est pourquoi le collectif Résistance citoyenne décide de se battre contre la dictature en marche dans notre pays pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Niger. Lance un vibrant appel à tous les Nigériens, à tous les citoyens nigériens attachés aux valeurs démocratiques chèrement acquises de haute lutte, de sortir massivement pour prendre part à la marche citoyenne pour la restauration de la démocratie qu'il organise le dimanche 24 avril 2016 sur l'ensemble du territoire national.
Abdoulaye Oumarou, du collectif Résistance citoyenne au Niger.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le Malawi se bat pour mettre fin au vol de médicaments antipaludiques dans les hôpitaux publics. Ces vols coûtent plusieurs millions de dollars chaque année et les États-Unis qui fournissent cette aide en médicaments menacent d'arrêter si les autorités ne prennent pas la situation à bras le corps. Lionel Gaïma.
Le paludisme est la cause de 40% de la mortalité et du quart de visite médicale dans les hôpitaux du Malawi, selon le ministère de la Santé. Le gouvernement américain et le Fonds global de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria fournissent presque tout le stock des médicaments antipaludiques. En principe, ces médicaments devraient être distribués gratuitement. Mais une récente enquête du ministère de la Santé révèle que 30% des médicaments sont volés à Lilongwe, la capitale, et 70% disparaissent des centres de santé à travers le pays. Édouard Monster est chargé des affaires publiques à l'ambassade américaine au Malawi.
Instead of the government pharmacy providing that medication free of charge to the Malawian citizens that need it.
Dans les pharmacies publiques qui devaient donner ces médicaments gratuitement aux citoyens, on dit qu'il n'y a plus de médicaments, mais qu'ils peuvent aller au marché pour acheter le même médicament. C'est malheureusement criminel.
And that unfortunately is criminal.
Les États-Unis et le Fonds global ont donc lancé une campagne pour dénoncer les vols en appelant un numéro vert ou en envoyant un email. Edward Monster est le chargé de communication de l'ambassade américaine au Malawi.
And I'd like to point out that under the Make a Difference campaign,
et je voudrais préciser que cette campagne nommée Faites la différence est financée par les États-Unis et des récompenses sont même promises aux personnes qui donnent des informations crédibles pouvant mener à l'inculpation des voleurs des médicaments. Les responsables de santé estiment pour leur part que les peines prévues par la loi sont trop légères, voire indulgentes. D'après Adrian Chikumbe, porte-parole du ministère malawite de la Santé, plusieurs personnes qui ont été prises la main dans le sac ont été libérées après avoir payé une toute petite amende. Si quelqu'un vole les médicaments valant plusieurs millions, il paye une amende de 7 dollars. C'est presque rien. Nous sommes en train de travailler avec une commission parlementaire pour réviser la loi et avoir des peines beaucoup plus lourdes. La présidente de la commission de loi sur la santé est d'accord pour les peines plus sévères. Elle assure que sa commission est à un stade avancé de révision de la loi. Des infirmiers et autres personnels de santé sont pointés du doigt, mais les associations de défense des droits de l'homme parlent de corruption à un plus haut niveau. Pour Joyce Ngoma, présidente de l'Association nationale des infirmières du Malawi, c'est tout le système de santé qui est à refaire.
Les voleurs et les coupables, nous les connaissons. Ils ont été nommés auparavant et ce sont eux qui ont été promus. Et vous voulez vous attendre à quoi après?
Cette fois-ci, les autorités malawites assurent qu'elles vont agir d'une main de fer et que personne ne sera épargné.
Ici aux États-Unis, les démocrates Hillary Clinton et Bernie Sanders se sont violemment affrontés hier soir dans un débat à haut risque, cinq jours avant les élections primaires de New York. Madame Clinton cherchant à prouver qu'elle était la plus qualifiée pour devenir présidente et Monsieur Sanders mettant en cause son jugement. Le débat était la dernière occasion pour les millions d'électeurs new-yorkais de voir les deux démocrates côte à côte avant les primaires du 19 avril. Madame Clinton a une moyenne de 13,8 points d'avance sur le sénateur du Vermont dans les sondages et veut une large victoire dans l'État dont elle a été sénatrice de 2001 à 2009. Monsieur Sanders, né à Brooklyn, veut croire à son élan, porté par 7 victoires consécutives aux primaires dans autant d'États depuis le 22 mars. Et il s'est montré particulièrement combatif hier soir. Au sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé les dirigeants musulmans à surmonter les différences confessionnelles pour lutter contre le péril djihadiste. Le point, Idriss Fall.
Le centre d'Istanbul est quadrillé par plus de 5000 policiers. La 13e conférence de l'OCI rassemble les représentants de 56 pays, dont une trentaine de chefs d'État, devant ses hôtes, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani. M. Erdogan a déclaré que sa religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme et que les musulmans doivent s'unir pour faire face au terrorisme. Il a annoncé la création prochaine d'un centre pour la coopération des polices des pays de l'OCI, une sorte d'Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner la lutte antiterroriste. Le président turc a aussi déploré l'augmentation de l'islamophobie dans certains pays occidentaux qui, selon lui, parlent des attentats de Bruxelles et Paris, mais très peu des attentats d'Ankara ou de Lahore au Pakistan. La rencontre qui s'achève ce vendredi permet à la Turquie de sortir un peu de l'isolement. Le pays est brouillé avec l'Égypte depuis le renversement du président Mohamed Morsi. Ankara, qui combat ouvertement le régime de Damas, est également en froid avec Moscou.
Au moins 30 000 personnes ont fui les combats opposant les djihadistes aux rebelles dans le nord de la Syrie au cours des dernières 48 heures, a affirmé l'organisation Human Rights Watch, appelant la Turquie à leur ouvrir sa frontière. L'ONG a accusé les gardes frontières turcs de tirer sur des déplacés qui s'approchaient de la frontière fuyant des violents affrontements opposants dans la province d'Alep, les djihadistes du groupe État islamique au groupe rebelle. Au Brésil, nouveau revers pour la présidente Dilma Rousseff. Elle a échoué à faire bloquer par la justice sa procédure de destitution qui débute donc aujourd'hui au Parlement. Le tribunal suprême brésilien a rejeté un recours du gouvernement demandant d'annuler la procédure de destitution contre la présidente de gauche Dilma Rousseff. L'opposition lui reproche de maquillage de comptes publics. Et puis, démarrage officiel de la campagne sur le référendum du 23 juin qui doit décider du maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Les sondages annoncent un vote serré lors de ce référendum qui sera la première consultation des Britanniques sur l'Europe depuis 1975. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.